Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, comment la ville de Jérusalem a changé au cours des dernières décennies sous l'épreuve d'un conflit qui n'en finit pas. La forme d'une ville, c'est la traduction dans l'espace des rapports de force qui s'y jouent, et en près de 80 ans de conflit, la forme de Jérusalem a indéniablement beaucoup changé. Une barrière de séparation y a été construite, le quartier des Maghrébins qui se trouvait en face du mur des Lamentations a été détruit, un tram circule entre l'est et l'ouest de la ville, une autoroute sécurisée entourée d'un mur de 8 mètres de haut relie le centre à la colonie de Maal Adumim. Quels sont les buts et les résultats de cette urbanisme, comment se gouverne la cité et qui prend les décisions pour la partie palestinienne. Enfin, comment évolue la démographie de cette ville qui attire les religieux mais fait fuir bon nombre de laïcs. C'est de tout cela dont nous allons parler ce soir.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et deux invités en studio pour évoquer ce sujet. D'abord, Irène Salançon, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée au Centre de recherche français de Jérusalem. Vous avez fait paraître aux éditions de l'Aube le livre « Jérusalem, bâtir deux villes en une ». À vos côtés, May Malouf Mono, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée à l'IREMO, politologue spécialiste du Moyen-Orient. Et vous publiez au Cavalier Bleu le livre « Jérusalem, idées reçues sur une ville frontière ». Et je vous propose à toutes les deux de commencer par évoquer un moment charnière pour cette ville, l'annexion de Jérusalem-Est par Israël. Vainqueur de la guerre des six jours, c'était en 1967.
Jérusalem, après 60 heures de combat et 40 heures de très dur bombardement, vient de retrouver son unité. La nouvelle, l'événement, a été accueilli dans Israël tout entier avec une profonde émotion, une émotion religieuse, pourrait-on dire. Devant les murs, le mur des Lamentations, des délégations viennent du pays tout entier, tandis que du monde entier, du monde chrétien également, nous parviennent des messages qui saluent l'importance de cette date en vérité historique.
Voilà, c'était André Chouraki, un adjoint au maire de Jérusalem, au moment de l'annexion de la partie palestinienne de la ville, présentée ici comme une réunification. Rappelons qu'en 1947, le plan de partage de la Palestine considérait Jérusalem-Est comme une ville internationale. Ce quartier des Maghrébins dont il est question dans l'archive, May Malouf Mono, pouvez-vous nous rappeler ce qu'il était et ce qu'il s'est passé dans la nuit du 10 au 11 juin 1967?
Oui, en effet, on a longtemps cru à l'accident de guerre, la guerre de 1967, même s'il y avait quand même une certaine tradition orale palestinienne qui racontait le contraire, mais il fallait attendre l'ouverture des archives pour pouvoir prouver tout ça. Donc c'était un quartier très ancien. Il a commencé en fait à se développer à l'époque de la reprise de Jérusalem par Saladin, donc jusqu'à sa destruction en juin 1967. Alors Maghreb en arabe, ça a deux sens. Ça a le sens de l'ouest, Rajb, l'ouest, et ça indique aussi le Maroc. En fait, ça a deux sens. C'était le quartier en fait à l'origine des pèlerins qui venaient donc de ces musulmans de l'ouest qui venaient du Maroc ou du Maghreb, des pèlerins qui ont décidé à un moment donné de s'installer dans ce quartier-là, puis qui se sont développés dans ce quartier. Et le quartier s'est développé pendant près de 8 siècles. En 1967, en juin, ce quartier était devenu un peu trop encombrant. C'est-à-dire que la communauté israélienne, juive, enfin l'État d'Israël, déjà ça a commencé depuis le 19e siècle, on a commencé à s'intéresser à ce quartier. Mais avec la guerre...
Il y avait des volontés de racheter, je
absolument,
crois,
ce
quartier-là qui était devant le mur des Lamentations.
La volonté très claire de racheter
donc,
le quartier.
Voilà. Les Israéliens souhaitaient en faire une esplanade, ce qui est le cas aujourd'hui.
Absolument. Enfin, c'était le sionisme politique à l'époque, on ne parlait pas encore d'Israéliens.
Oui, bien sûr.
Tout d'abord, c'était des... C'était une volonté plutôt individuelle des individus qui proposaient à l'Empire ottoman, au pouvoir central ottoman de le racheter, etc. Puis ensuite aux Britanniques. Mais ça n'a pas marché. Ils savaient d'ailleurs, à l'époque, ça allait être très dur, parce que c'était un quartier qui a été régi par le Waqf, c'est-à-dire la communauté musulmane. Et puis les cadastres, à l'époque, n'existaient pas. Donc, pendant toute la période ottomane, c'était une propriété du sultan. d'une certaine manière. C'était pas des propriétés privées, individuelles. Ça, c'est venu après avec l'occupation britannique. Donc, au début, c'était des propositions individuelles. Fin 19e siècle, début 20e siècle, ça n'a pas marché. Ensuite, avec la guerre, on a décidé, parce que c'était un quartier, les quartiers maghrébins étaient un quartier qui était très, très proche de ce que la communauté juive considère comme le Kotel, donc c'est l'actuel mur des Lamentations. Donc c'est un mur qui est une partie en fait de l'esplanade des mosquées, et la communauté juive à l'époque, fin 19e siècle, début 20e, et puis ensuite l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, considérait ce mur-là comme les restes du temple de Salomon. Mm-hmm. On sait parfaitement que dans l'histoire de la communauté juive, c'était quelque chose de très très important qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Donc il fallait en fait faire de la place pour faire une esplanade de prière, et en juin 1967 en effet le go a été donné pour pouvoir détruire ce quartier.
Irène Salençon, ça dit déjà, enfin on entre un peu dans le vif du sujet qui est l'urbanisme et la guerre à Jérusalem. À quel point est-ce que ce conflit a marqué cette ville ? On imagine beaucoup, mais est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ?
Alors, en 1967, ce qu'on peut dire, et je vais répondre à votre question, mais dans le prolongement de ce qu'a dit May sur ce quartier-là, qui est donc attenant au mur occidental, au Kotel pour les Israéliens, il est aussi dans la continuité du quartier juif médiéval. On a dit que la vieille ville, et après on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus mixte que ça, mais qu'elle était séparée en quatre quartiers, donc musulmans, chrétiens, arméniens et juifs. Et c'était dans la continuité, c'est une des raisons pour lesquelles, bien sûr, avec la présence du Kotel, les premiers immigrants sionistes, enfin une certaine partie d'entre eux souhaitaient s'installer dans ce quartier-là. Il y a ce fait de guerre qui vise en effet, comme l'a dit May, à dégager une esplanade devant le Kotel. C'est aussi maintenant qu'on a retrouvé des témoignages. D'ailleurs, donc Vincent Lemire a écrit... J'ai écrit un article avec Vincent Lemire sur ce sujet, et Vincent Lemire a écrit un livre auquel les auditeurs peuvent se référer, qui s'appelle « Au pied du mur ». On était étonnés de trouver assez peu d'écrits et de témoignages du côté israélien. Mais il y a quand même des témoignages qui disent qu'il y avait aussi une vengeance, parce que il y a 35 synagogues qui avaient été détruites pendant la période 1948-67 dans le quartier juif de la vieille ville. Voilà. Et donc, en tout cas, ce qui s'est passé en 1967, c'est que l'État d'Israël a voulu absolument récupérer la vieille ville, et au-delà, donc c'est étendu, donc à annexer ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem-Est. C'est 70 km², c'est très très vaste, c'est beaucoup plus vaste que la vieille ville, et ça c'était aussi, bien sûr, dans un but d'appropriation du territoire, mais aussi il y avait une visée de défense militaire.
Donc on est à un tournant dans la forme de la ville, 1967, c'est vraiment le passage d'une ville à une autre, presque, Irène Salençon.
Oui, oui, c'est vraiment un très gros changement, puisque donc du côté palestinien, donc entre 1948 et 1967, la ville était sous mandat jordanien, et la municipalité jordanienne, elle faisait 6 km², donc c'est en fait au nord de c'est la vieille ville, et au nord de la vieille ville, des quartiers urbanisés qui existent encore jusqu'à Sharjara.
C'était une petite ville, une ville provinciale.
Assez petite ville. Et du côté israélien, c'était pas aussi étendu non plus. Aujourd'hui, la Jérusalem municipale israélienne, elle fait 126 km².
C'est un peu plus grand que Paris.
Voilà, c'est un peu plus grand que Paris, intramuros. Mais donc, à ce moment-là, en 67, c'est vraiment un énorme changement, parce que d'un coup, la surface municipale devient très très grande et englobe, du côté palestinien, des villages qui avaient encore des terres agricoles autour.
Est-ce que avant 1967, on est dans une ville qui est quand même un petit peu unifiée du point de vue de son apparence ? Parce que aujourd'hui, entre l'Est et l'Ouest, on le décrira peut-être un peu plus loin dans l'émission, il y a d'assez grandes différences qui se voient à l'œil nu. À l'époque, est-ce qu'il y a une unité plus grande de la ville ?
Bon, ce qu'on constate, mais en fait on le constate encore aujourd'hui, hein, c'est que du côté palestinien et du point de vue vraiment de l'urbanisme, et du côté israélien, on a vu les mêmes formes architecturales, y compris à la période ottomane par exemple, on trouve des fenêtres en ogive, des coursives, etc. Ça on le trouve des deux côtés, la construction en pierre.
Donc, oui, cette pierre caractéristique assez claire, jaune un petit peu, ocre.
Voilà, c'est les pierres qui viennent de Judée, de Cisjordanie. Et donc, mais ensuite, chaque quartier en dehors de la vieille ville, même pendant la période de la partition entre 48 et 67, chaque quartier pouvait avoir sa particularité. Non, ce qui change vraiment en 67, c'est l'apparition des colonies.
Moi, j'ai vu des villas, des belles villas, des gens qui vivaient dans ces belles villas, mais dans ces villas où les gens habitaient, et là, un jour, vraiment, de façon tout à fait inopinée, des bulldozers sont arrivés, ils ont commencé à creuser et à construire un mur fortifié, un mur immense, 2 mètres ou à 1 mètre de leur villa, merveilleuse, dans certains cas, au sein même de leur jardin. Le mur était construit au milieu du jardin, coupant un frère de sa sœur, une mère de sa fille, un fils de son père, ses parents des voisins, ses parents un homme de son emploi. C'était étonnant la façon dont ça a été construit. C'était une situation très brutale, une façon très brutale de couper des gens de leur vie quotidienne. Vous savez, fondamentalement, ça vous met dans une prison qui est plus grande qu'une prison normale et sans même vous donner 3 repas par jour.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et on vient d'entendre Mohamed Dalé, qui est un avocat spécialiste des expropriations de Palestiniens de Jérusalem-Est. Il était interrogé en 2007 par Marc Kravetz. Meïm Alouf-Mono, à partir des années 2000, un mur de séparation est construit par Israël pour matérialiser au fond la séparation entre Israéliens et Palestiniens. Ce mur tout naturellement, j'ai envie de dire, même si c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait employer, existe aussi à Jérusalem. Il est au fond la continuité de ce qui se passe ailleurs dans le pays. Comment se passent les passages justement entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest? Est-ce qu'il y a des flux? Est-ce qu'il y en a eu? Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a moins. Comment ça se passe?
Lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat en 2003, il n'y avait rien. Mais c'était en fait le début de la construction du mur, hein, 2002-2003, le projet, puis la mise en place. Et lorsque j'ai terminé en 2007, le mur était là, presque complet à Jérusalem, donc ça a complètement perturbé mon travail. C'est juste pour vous donner une idée de la rapidité avec laquelle il a été en fait construit, en tout cas à Jérusalem. Dans le reste de la Cisjordanie, on met plus de temps pour le finir, mais en 2007 déjà, Jérusalem était complètement construit. Pour répondre à votre question, la première, le passage entre Jérusalem Est ou Ouest se fait d'une manière très fluide. Il n'y a pas de séparation.
Pas de checkpoint.
Il n'y a pas de séparation, non. Il n'y a pas de checkpoint.
Et depuis le 7 octobre, il n'y en a pas davantage.
Depuis le
début de la guerre que l'on vit aujourd'hui et des attentats du 7 octobre, il n'y a pas davantage de checkpoint.
Moi, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas si actuellement ils en ont mis, mais pas à ma connaissance. Même à l'époque de la deuxième intifada, qui est restée quand même plusieurs années et qui était quand même assez très très difficile. Hein. J'étais sur place quand elle a commencé, elle s'est développée. Il n'y avait rien, aucun checkpoint entre Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. Et à un moment donné, entre 47-8 et 67, il y avait une sorte de, enfin avant la guerre des six jours, il y avait une porte. Ça s'appelait la porte de Meldenbone. Et cette porte, en fait, était une porte de passage entre Est et Ouest, même si, quand même, on voyait les différences entre les deux quartiers, comme on disait tout à l'heure. Et c'était, si vous voulez, un moyen de passage, notamment pour les diplomates, les dignitaires, etc. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Même avec la construction du mur. Si on met en place des checkpoints, c'est amovible. Ce n'est pas des checkpoints complètement, à ma connaissance, qui sont fixes.
Et donc, les passages, les flux de population se font entre l'Est et l'Ouest, ou finalement, chacun reste un petit peu quand même de son côté du mur?
Ça se fait parce que, si vous voulez, moi j'ai appelé ça, enfin, il n'y a aucune frontière, ça c'est vrai, aucune frontière physique entre les deux, mais il y a ce que j'appelle des frontières invisibles. Il y a des frontières culturelles, il y a des frontières urbaines, il y a la frontière politique, on reviendra dessus tout à l'heure lorsqu'on va parler des élections à Jérusalem, il y a une frontière politique très très visible hein, entre l'Est et l'Ouest, mais le mur est vraiment resté, si vous voulez, à l'extérieur, si vous voulez, à l'extérieur de Est-Ouest. Il englobe plutôt Jérusalem-Est par l'extérieur, c'est-à-dire par rapport à la Cisjordanie. Et c'est un mur qui fait à peu près quand même, selon les estimations à Jérusalem, qui fait à peu près 190 kilomètres, donc il est quand même énorme. En Cisjordanie, entre 700 et 800 kilomètres, très très haut. Ça peut monter jusqu'à 7-8 mètres. À titre de comparaison, le mur de Berlin faisait à peine 3 mètres de hauteur. Donc, il est quand même impressionnant, même et surtout à Jérusalem.
Alors, qu'est-ce que ça change d'un point de vue urbanistique que d'avoir ce mur qui traverse la ville? On imagine que chaque opération d'urbanisme, chaque fois qu'on pense la ville, on est obligé de partir de cette cicatrice qui sépare chacun des quartiers.
Oui, je pense qu'il faut redire donc que le mur ne sépare pas Jérusalem Est et Ouest. D'ailleurs, c'est ce que disait Mohamed Darleh dans le témoignage. Hein. En fait, ce qu'il indique, c'est qu'il a coupé des quartiers palestiniens en deux, puisqu'il est sur la bordure externe de Jérusalem-Est, mais il y avait une continuité urbaine de quartiers palestiniens qui sont dans les limites municipales et des banlieues qui sont en Cisjordanie. Et c'est là que la coupure se fait. D'un point de vue urbanistique, évidemment, ça a eu beaucoup de conséquences sur les flux, et d'ailleurs pas que sur l'aménagement. Aussi, bien sûr, sur les questions économiques, sur les services. Il y a des enfants qui habitent d'un côté et leur école est de l'autre côté du mur, etc.
Alors, ça pose la question de la possibilité d'avoir des quartiers mixtes. Il y en a eu, ou il y a eu des tentatives, en tous les cas, dans l'histoire de quartiers mixtes aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est?
Oui, il y a eu des quartiers mixtes. Alors, en tout cas, depuis 1967, il y a très peu de quartiers mixtes. Il y en a quelques-uns dans la vieille ville, autour de la vieille ville. Mais d'après mes enquêtes, ça m'intéresse de savoir si May aura le même avis. Les Palestiniens n'ont pas forcément envie de vivre dans un quartier avec des Israéliens et vice-versa. Il y a quelques quartiers qui se trouvent vraiment à proximité de la séparation entre Jérusalem Ouest et Est qui sont mixtes, mais c'est pas vraiment un souhait.
Oui. Et donc, les systèmes scolaires aussi sont différents. Ce qui pose, on parlait des enfants à l'instant, des problèmes aussi de ce point de vue-là pour habiter dans le même quartier.
Mais ce qu'on ne sait pas et qui était assez intéressant aussi à étudier en recherche, c'est que on trouve des Palestiniens dans les colonies, notamment au nord. Donc ça, c'est assez étonnant. Il y a des chercheurs qui ont écrit là-dessus. Et en fait, c'est parce que c'est souvent des Palestiniens qui viennent d'Israël, qui viennent du nord, de la Galilée, et qui sont venus étudier à Jérusalem, et qui sont donc à l'université hébraïque de Jérusalem, et qui ensuite se sont installés dans les quartiers environnants, parce qu'il y a une crise du logement dans les quartiers, il y a un manque de logement dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, et ils ont trouvé des logements là, à proximité.
Mais Malouf Mono.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, on voit parfois, par exemple, les Palestiniens on va parler tout à l'heure de ces résidents palestiniens, résidents d'Israël, résidents palestiniens à Jérusalem, parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment détailler, parce que c'est très méconnu. Certains Palestiniens à Jérusalem peuvent aller dans les quartiers, certaines colonies. Par exemple, moi, je voulais faire du sport avec mes amis. On allait dans la Maale Adumim, on se garait la voiture, on faisait. Voilà, ça peut arriver. Mais habiter, non. Non, c'est très, très difficile, sauf, comme disait Irène, par rapport aux Arabes, les Arabes israéliens, oui.
Il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques.
France Culture. Géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Comme chaque semaine, l'un de nos invités propose une carte à commenter en direct. Irène Salençon, c'est à vous qui est revenue cette tâche cette semaine. Vous avez choisi, vous avez fabriqué même pour nous, merci, une carte sur la démographie du Grand Jérusalem que les auditeurs peuvent voir sur notre site internet. C'est une carte qui montre la répartition de la population israélienne et palestinienne dans cette aire géographique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire succinctement et puis nous dire ce qu'elle raconte, cette carte?
Oui, je voulais montrer avec cette carte qu'il y a à la fois plein de barrières et de frontières et une continuité qui finalement arrive à se développer malgré les frontières et les barrières. Donc on voit ce qu'on appelle la ligne verte qui sépare Jérusalem-Ouest de Jérusalem-Est, qui est le trait le plus fin. Et on voit aussi le mur, et on voit bien ce qu'on a dit tout à l'heure avec May, c'est que le mur en fait a essayé d'englober non seulement Jérusalem-Est, donc les 70 km² dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des gros blocs de colonies qui sont en dehors de la limite municipale. Il y en a trois. Donc il y a celui de Givat Zev au nord, Malé Adoumim dont on a déjà parlé à l'est, et le Gush Etzion au sud. Voilà pour les superficies. Donc c'est on a dit déjà 126 km² pour la surface municipale. On voit aussi que le mur, il a rejeté des quartiers de forte population palestinienne qui pourtant étaient dans les limites municipales. Alors on le voit au nord.
Comment c'est arrivé? Comment est-ce possible?
Alors ça, c'était tout à fait assumé. Il y a des écrits des décideurs politiques israéliens parce que à Jérusalem, il y a une bataille démographique et le mur servait aussi à ça, c'est-à-dire à essayer de maintenir une majorité démographique juive dans la ville. Donc voilà, on
qui est pour l'instant à 64%, 65% de juifs par rapport aux Palestiniens.
Alors dans les limites municipales, donc 60% de population juive israélienne et 40% de population palestinienne arabe. Et donc, la proportion a diminué en faveur des Palestiniens. Parce qu'en 1967, il y avait 25% de population palestinienne et 75% de population juive israélienne. Et ce que j'ai voulu montrer, ici, j'ai mis les endroits où il y avait beaucoup d'habitants, à la fois à l'ouest et à l'est, et j'ai voulu montrer aussi qu'il y a une continuité palestinienne tout le long de la ligne de crête, depuis Ramallah jusqu'à Bethléem, et qu'en fait, si on regarde à une échelle métropolitaine, on a à peu près la même quantité de proportion de population juive israélienne, donc on a à peu près entre, ça dépend l'échelle qu'on prend, mais entre 600 000 et 800 000 juifs israéliens et entre 600 000 et 800 000 palestiniens arabes dans cet grand espace métropolitain. Et le mur cherche à contrarier cette continuité de façon à maintenir une majorité démographique juive israélienne.
Mais qui est rendue difficile par le fait qu'au fond, ça n'est pas une ville très très attirante pour les Israéliens, je le disais en introduction, sauf pour les religieux, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de tensions, donc c'est difficile au fond, d'attirer des Israéliens dans la partie, enfin d'attirer des Israéliens à Jérusalem, je me trompe?
Alors oui, c'est quelque chose aussi, j'ai écrit sur ce sujet dans mon livre sur Jérusalem. En fait, on pense on a quand même un regard extérieur, nous les Français, sur cette ville. Et donc, on pense tout de suite aux problèmes politiques, idéologiques et religieux. Et en fait, ce qui se passe pour l'installation ou pas de Palestiniens ou d'Israéliens à Jérusalem, c'est comme partout ailleurs, les premières raisons sont des raisons d'accès à l'emploi et d'accès au logement.
Donc le prix, tout simplement, voilà. Des habitations, le prix des loyers.
Voilà. Par exemple, le prix très important des loyers a expliqué le développement de banlieues du côté palestinien. L'accès au marché de l'emploi israélien explique aussi que des Palestiniens se soient installés dans ces banlieues ou à Jérusalem-Est pour accéder à l'emploi. Et du côté israélien, en fait, bien sûr, par exemple, les ultra-orthodoxes, c'est un tiers de la population de Jérusalem, donc les ultra-orthodoxes tiennent à vivre à Jérusalem pour la vie communautaire, notaires et les pratiques religieuses. Cependant, ils sont chassés de Jérusalem par le marché, en fait. Donc, leur proportion n'augmente pas tant que leur croissance démographique.
On a tendance peut-être à l'oublier, ça, même à Loufmono, que Jérusalem, c'est aussi une ville comme les autres qui a des dynamiques urbaines qui sont, en effet, comme le disait Irène Salençon, déconnectées en partie de la question de la guerre.
En effet, oui. Et puis, on parlait tout à l'heure du flux entre Jérusalem Est et Ouest. Et ce qui fait, en fait, le dynamisme de cette ville, d'une certaine manière, indirectement, c'est que les Palestiniens qui vivent à Jérusalem ont besoin du marché israélien. Donc, ils vont, il y en a beaucoup, tous, on va dire, qui vont à Jérusalem Ouest travailler, puis ils reviennent habiter dans leur quartier, à Jérusalem Est. Je voudrais rajouter aussi une petite idée par rapport à la carte que l'on voit. On parlait tout à l'heure du quartier des Maghrébins. Justement, il y avait à Jérusalem, avant la construction du mur notamment, il y est toujours d'ailleurs le camp de Shofat. Le camp de Shofat, c'est un camp qui a été mis en place en 67, après la guerre de six jours. Et puis aujourd'hui, la population qui y vit, à peu près 20 000 personnes, la personne qui y vit, ce sont des anciens, justement, des quartiers des Maghrébins, mmh, en partie. Mmh. Pas que, bien sûr, mais en partie. Des réfugiés.
Donc, ils sont là depuis très longtemps,
des réfugiés,
maintenant.
Mais déplacés, si vous voulez, depuis très longtemps. Puis, une partie qui est venue habiter aussi en 48, mais surtout en 67. Et c'était le seul camp de réfugiés palestiniens qui se trouvait à l'intérieur des limites municipales de Jérusalem. Et avec la construction du mur, parce que vous posez la question tout à l'heure de ce qui a changé, bah le mur, justement, étant donné qu'il y a un conflit démographique dans la ville, on a fait en sorte que ce camp puisse en fait rester dehors. C'est-à-dire à l'extérieur, si vous voulez, du mur, qui peut-être inconsciemment deviendra donnera lieu aux prochaines limites municipales, probablement.
Donc la dynamique démographique, elle est laquelle aujourd'hui, finalement, avec donc la construction du mur, qu'est-ce qui se passe démographiquement ?
Alors, ce qu'on regarde aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a toujours plus de départs que d'arrivées. Pour les raisons que j'ai dites, hein, principalement pour l'emploi.
Les Israéliens préfèrent aussi habiter sur la côte,
voilà,
de manière générale.
Il y a plus d'emplois. Jérusalem est une ville pauvre qui a peu d'activité économique. Hein, la majorité de l'emploi, des deux côtés, israélien et palestinien, mais en tout cas du côté israélien, c'est clairement la fonction publique. Et du côté palestinien, il y a aussi beaucoup d'emplois dans l'éducation, la santé, mais aussi dans le commerce et le tourisme. C'est une ville qui n'est pas attractive. En revanche, il y a les indices de fécondité sont plus élevés à Jérusalem qu'ailleurs, et en Palestine et en Israël.
Ce qui montre aussi un peu cette guerre démographique. On fait des enfants pour être la communauté qui va finalement l'emporter démographiquement.
Oui. Voilà, donc par exemple, les ultra-orthodoxes, ils ont un indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme de 5,6. Curieusement d'ailleurs, c'est lié à la présence des ultra-orthodoxes, mais il y a eu une inversion des courbes, c'est-à-dire que l'indice de fécondité des Palestiniens à Jérusalem a baissé. Maintenant, la moyenne, c'est 3 enfants par femme, tandis que l'indice de fécondité des Israéliens a augmenté, c'est 4 enfants par femme. Donc aujourd'hui, on est dans une ville qui reste quand même, à l'échelle des capitales mondiales, assez petite, puisque c'est moins d'un million d'habitants.
Et qui se débat, je le disais, contre l'image d'une métropole de province, en construisant par exemple un pont fait par l'Espagnol Calatrava, qui a été commandité, et c'est un pont spectaculaire, sur lequel passe le fameux tramway.
On est à Sherjara, on longe en fait la ligne verte, c'est-à-dire qu'on est à Jérusalem-Ouest, mais 10 mètres à l'ouest, on est à Jérusalem-Ouest. D'ailleurs, on le voit, on ne peut pas se rendre compte aujourd'hui de si on est à l'est ou à l'ouest. Et on longe tout simplement la ligne verte.
Ça se remplit là, hein, doucement.
Oui, là on se rapproche en fait de l'hypercentre, parce qu'il y a plusieurs centres à Jérusalem. Un centre juif orthodoxe qui est Meacharim, Géoula. Il y a un centre arabe où les Arabes vont faire leurs courses. Et puis il y a un centre commun qu'on peut appeler l'hypercentre, qui se trouve géographiquement au centre de la ville de Jérusalem, qui est dans la rue de Jaffa.
Reportage de Sophie Bobert en 2011. Donc ce tram, il relie les deux parties de la ville, comme on l'a entendu dans cet extrait avec le géopolitologue David Amselem. C'était quoi l'idée de ce tram ? Est-ce que c'était de faire une couture entre les deux villes ? Quelle était la volonté ?
Alors, bon, il a cette fonction de couture, mais vraiment, là aussi, il y a quand même des choses qui se passent à Jérusalem, comme dans d'autres villes, il y avait des embouteillages, il y a toujours beaucoup d'embouteillages. Donc la première raison, c'était de limiter les embouteillages. Et en fait, le schéma global, il comprend 8 lignes. Pour l'instant, il y en a une seule qui est en service. Mais comme ailleurs, la première ligne qui a été mise en service, ça correspondait au trafic le plus important, en fait. Donc, ça passe, une grande partie passe sur la limite entre Jérusalem-Ouest et Est.
Parce qu'il y a des mouvements pendulaires de travail entre l'Est et l'Ouest,
par... Oui, notamment parce qu'il y a des mouvements pendulaires de travail. En revanche, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il relie d'un côté le quartier, donc à l'Ouest, le quartier gouvernemental où on trouve tous les ministères, mais à l'Est, il va jusqu'à une colonie, la colonie de Pisgat Zev et Neve Yaakov au Nord. Et donc, ce faisant, il longe la vieille ville. Donc, il passe dans le centre-ville de Jérusalem-Ouest, le long de la rue de Jaffa. Il longe la vieille ville. Et ensuite, il y a 3 stations dans les quartiers palestiniens de Choufat et Beth Hanina.
qui sont les endroits où il y a des caillassages, parce que ce tram est vu du côté de Jérusalem-Est comme étant un tram qui favorise finalement la colonisation, puisque comme vous l'avez dit, Rennes Salençon, il va jusque dans une colonie.
Oui, les deux reproches qui ont été faits du côté palestinien, il y a eu des recours en justice, hein, y compris en France d'ailleurs, puisque des entreprises françaises
étaient impliquées. C'est Alstom qui a fabriqué ce tram.
Et elles se sont retirées en fait après à cause de ces recours en justice. Les deux reproches qui étaient faits, bon, d'abord évidemment, quand il y a une infrastructure de ce type, il y a expropriation de terres pour cause d'utilité publique. Là, ça a été fait sur le tracé de route, donc en théorie, les routes appartenaient déjà, enfin étaient déjà espace public. Simplement, quand ce tramway traverse des quartiers palestiniens, même si c'est espace public, ça reste espace public palestinien. Or, l'infrastructure est construite par le gouvernement israélien. Donc, il y avait une question foncière. Et la deuxième question, bien sûr, c'était le fait que ça relie une colonie. Et donc, c'était la normalisation ou la pérennisation des colonies. Donc ça, c'était quelque chose qui était critiqué du côté palestinien. Aujourd'hui, il y a eu bien sûr des caillassages, il y a eu des incidents, etc. Aujourd'hui, on constate qu'il est quand même utilisé par des Palestiniens. Peut-être pas tous les Palestiniens, mais un certain nombre de Palestiniens.
Ça pose la question de la façon dont ce tram a été pensé. Mais Malouf Mono, est-ce qu'il y a une co-construction quand il y a de grands ouvrages comme ça d'urbanisme à Jérusalem entre des leaders israéliens et puis des correspondants palestiniens qui pourraient aussi donner leur avis? Comment est-ce que ça se passe?
Au niveau municipal, vous voulez dire?
Oui.
Non, pour l'instant, non.
Donc tout est décidé par les Israéliens?
Absolument. Parce que les Palestiniens en fait qui vivent à Jérusalem Est, hein, normalement ils ont le droit de vote, mais ils peuvent en fait voter au niveau municipal, mais ils ne votent pas au niveau national, c'est-à-dire ils peuvent pas voter, peuvent pas intervenir sur le plan gouvernemental, etc. Sauf que depuis l'occupation de la ville en 1967, il y a eu plusieurs tentatives pour que les Palestiniens pour qu'on puisse attirer en fait le vote arabe palestinien, ça n'a jamais marché.
Donc les Israéliens cherchent à amener à eux un vote palestinien, donc probablement en proposant des politiques qui sont des politiques également tournées vers Jérusalem-Est.
Oui, Teddy Kollek, l'ancien maire qui est resté maire très très longtemps à Jérusalem, proposait plusieurs choses. Mais
qu'est-ce qui était proposé?
De construire peut-être plus d'écoles, parce que il a lui-même à un moment donné, quand on lit ses discours, il a lui-même avoué qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour les Palestiniens, plus de routes, plus d'espaces verts, parce que les espaces verts, quand on se promène à Jérusalem-Est, c'est vraiment terrible en matière, c'est très très bétonné, hein, donc pas beaucoup d'espaces verts, etc. Mais, et c'était surtout, quand on regarde un petit peu les discours et les rhétoriques avec l'ouverture du processus de paix dans les années 90, début 2000, où ça a été énormément discuté, tout ça. Même après, hein, même jusqu'à aujourd'hui, mais surtout à l'époque, il y avait côté israélien de réelles propositions. Moshe Amirav, par exemple, que j'ai moi-même interviewé à un moment donné, il avait par exemple proposé une liste paix à Jérusalem. Et lui, il critiquait.
C'était une liste mixte.
Tout à fait. Il voulait faire en sorte que ce soit une liste mixte. Et il critiquait à l'époque la politique de Teddy Kollek en disant qu'il ne fait pas assez, il se moque des Palestiniens à Jérusalem-Est. Et puis il proposait en effet aux Palestiniens de venir avec lui dans cette liste, etc. Puis d'intégrer le conseil municipal. Et il m'avait dit, c'est idiot, ils ne veulent pas accepter. Et pourtant, ils peuvent changer les choses à Jérusalem-Est. Il en était convaincu, hein, mais très très sincèrement. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis, le taux de participation a toujours été bas.
C'est-à-dire 7%, que côté 8%, palestinien, on ne va pas voter.
Ils boycottent.
Voilà, parce que finalement, voter, c'est collaborer, entre guillemets.
Voter, c'est reconnaître indirectement l'occupation de 1967, l'occupation israélienne en 1967, et selon l'occupation qui est, j'utilise le terme occupation parce que c'est un terme utilisé par le droit international, et toutes les résolutions du Conseil, hein, de sécurité. Donc selon eux, c'est reconnaître l'occupation, en effet.
Sur cette question, Irène Salençon, de la gouvernance, qu'est-ce que vous pourriez dire?
Alors justement, il s'est passé quelque chose récemment d'intéressant. Il y a eu des élections municipales à la municipalité de Jérusalem, fin février, 24 février. Alors, sans surprise, ce sont les partis ultra-orthodoxes qui ont gagné le maximum de sièges, hein, 16 sièges sur 31, suivis des partis national-religieux, des partis de droite nationaux-religieux. Mais il y a eu cette fois-ci, il y a eu en deux temps, en fait, il y a eu un candidat palestinien. Alors, c'est un palestinien d'Israël, il vient de Nazareth, Walid Abou Tayeh.
Qui a aussi la nationalité israélienne.
Il a la nationalité israélienne et lui, son discours était justement de non pas reconnaître l'annexion israélienne, mais de, dans l'état actuel, de pouvoir lutter, par exemple, de pouvoir en tout cas exprimer les revendications des Palestiniens et notamment lutter contre les démolitions de maisons, par exemple. Ça, c'était dans son discours. Ensuite, il y a eu la guerre qu'on connaît à Gaza. Il s'est retiré, mais il y a une autre candidate qui est aussi une Palestinienne d'Israël qui s'appelle Sundus Al-Hout, qui s'est présentée dans une liste conjointe israélo-palestinienne avec le même argumentaire. Et c'est souvent en effet ce dilemme qu'on retrouve. Est-ce que participer aux élections israéliennes, c'est reconnaître l'annexion ou l'occupation, ou est-ce que ça permettrait de défendre les droits? Et c'est une question évidemment complexe, mais il y a aussi la référence des conventions de Genève sur la conduite des États en guerre qui disent que l'occupant a des droits vis-à-vis de la population, a des devoirs, pardon, vis-à-vis de la population occupée. Et c'est aussi une référence au droit international qui est souvent utilisée pour réclamer plus de services. Les Palestiniens sont discriminés dans les investissements municipaux pour les services de base.
Voilà, parce que c'est ça quand même le résultat. C'est, comme vous l'indiquiez, Meim Alouf-Modo, qu'il y a une grande différence entre l'Est et l'Ouest en termes de bureaux de poste, en termes d'écoles, en termes de parcs et en termes de dessertes aussi, et peut-être même en termes de ramassage d'ordures, je crois.
Oui, aussi, ça dépend des périodes, mais en effet, oui. En effet.
Sur la question de la démolition des maisons, il faut que vous expliquiez peut-être, Irène Salançon, vous y faisiez référence à l'instant, pourquoi est-ce qu'on démolit des maisons et quelles maisons est-ce qu'on démolit?
Oui, alors ça c'est un grand sujet, mais je veux dire encore une chose avant, vous avez demandé sur l'urbanisme, du coup, est-ce que les Palestiniens ne peuvent pas, on a parlé de cette voie qui est la voie électorale, il y a une autre voie quand même qui est de passer par des ONG, et donc il y a beaucoup d'ONG palestiniennes qui sont quand même actives à Jérusalem-Est, par exemple il y a la Welfare Association qui est une très très grande ONG à l'origine créée par les Palestiniens de diaspora et qui a fait énormément de travaux de protection du patrimoine, de restauration du patrimoine dans la vieille ville. Il y a aussi le Conseil palestinien pour le logement, qui est en fait un organisme qui dépend du ministère palestinien du logement, de l'autorité palestinienne, qui a aussi construit des logements sociaux. Donc il y a des choses qui se font par la voie de la société civile.
Au niveau du quartier, avec des expériences de démocratie participative et de comités de quartier.
Oui. Alors les démolitions de maisons, elles ont vraiment augmenté en nombre. À l'époque où j'ai fait mes recherches de terrain, clairement, il y avait, en fait, c'était une proportion assez faible. C'était moins de 10% des maisons construites sans permis de construire qui étaient démolies. C'était les immeubles trop hauts. C'était des quartiers qui étaient trop proches de colonies, selon les Israéliens, hein, évidemment. Tout ce que je dis selon la municipalité israélienne, ou qui était...
Voilà, en même temps, il y a des maisons qui sont, dont on sait qu'elles ne sont pas légales, entre guillemets, et pourtant, ces maisons ne sont pas détruites. Donc, c'est très difficile, en fait, de savoir, quand on construit sa maison, de façon légale ou pas, si elle va être détruite. Il y a une sorte de flou juridique.
Voilà. Alors, c'est pas exactement un flou juridique, mais évidemment, les politiques de démolition ne sont pas explicité, ce qui donne une impression d'arbitraire et d'aléatoire pour les Palestiniens. Mais par exemple, évidemment qu'il y a aussi des raisons politiques, il y a très très peu de démolition à l'intérieur de la vieille ville, parce qu'on sait que c'est trop sensible politiquement, par exemple. Voilà. Et il y en a assez peu dans les quartiers très densément peuplés. Ça va être plutôt des nouveaux quartiers un petit peu excentrés.
Mais la conséquence urbanistique de ça, c'est qu'on ne met pas forcément beaucoup d'argent dans sa maison, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'elle ne sera pas démolie côté palestinien.
Ça, ça dépend vraiment des quartiers. Là, un endroit qui me vient à l'esprit, c'est Walajé, qui est un village au sud de Jérusalem, et qui était en bordure des limites municipales. Et ensuite, il y avait ce projet de construction du mur, justement, à cet endroit-là. Et bien là, il y a eu beaucoup de démolitions, parce que c'était à l'endroit où le mur, où les Israéliens avaient, le gouvernement israélien avait prévu de construire le mur. Mais il y a d'autres endroits où il y a des très belles maisons palestiniennes assez cossues, voilà, dans les quartiers plus urbains, disons.
Tout à l'heure, vous avez un petit peu évoqué, je crois que c'était vous, Memalouf Mono, la question du cadastre. Parce qu'à l'époque ottomane, il n'y avait pas de cadastre en tant que tel, ce qui fait que là encore, il y a une insécurité juridique à Jérusalem-Est, puisqu'il n'y a pas toujours les papiers qui disent qu'on est propriétaire de sa parcelle.
Oui, en effet, la cadastration est venue avec l'administration britannique. Avant, on connaissait pas. Et d'où d'ailleurs la facilité avec laquelle les alias juifs, quand ils arrivaient à Jérusalem, arrivaient à acheter des maisons assez rapidement. Donc parce que la cadastration n'existait pas, tout simplement.
Oui.
Et ça pose parfois problème jusqu'à nos jours. On l'a vu avec la crise dans les années 80, lorsque les États-Unis ont voulu en fait installer l'ambassade américaine à Jérusalem, etc. Il y a eu pas mal de travaux dessus. Je voudrais aussi revenir, oui, par rapport à la démolition de maisons. Il faut savoir qu'à Jérusalem, plus précisément la vieille ville d'ailleurs, mais aussi les quartiers assez anciens, hein, Sheikh Jarrah et tout ça, tout ce qui est autour de la vieille ville stricto sensu. Parce que savoir que la vieille ville, elle ne fait qu'à peine un kilomètre carré, hein, c'est pas grand chose au niveau superficie. Il faut savoir qu'avoir une maison à Jérusalem aujourd'hui, c'est aussi exister. Il y a vraiment un enjeu existentiel des deux côtés d'ailleurs, côté israélien et côté palestinien, parce que
comme je l'ai... par rapport à quoi, par
exister,
rapport à
exister en tant que nation. Voilà, en tant que nation, en tant qu'État pour Israël et en tant que nation pour l'instant pour les Palestiniens. Donc il s'agit pas uniquement de construire et avoir une maison et habiter. Vous voyez, c'est le côté conflictuel, hein, qui donne cette surdimension, si vous voulez, identitaire, j'ai envie de dire, avoir une identité que palestinienne, mais à Jérusalem, ou israélienne, mais à Jérusalem. Et à un moment donné, en fait, c'est un problème qui est issu de cette histoire, où il y a, à l'époque où il n'y avait pas de cadastre, etc., où les choses n'étaient pas organisées. Et l'administration israélienne jouait pas mal aussi dessus. Et avec la construction du mur, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles. Par exemple, on disait aux Palestiniens qui ne pouvaient pas, en fait, qui ne résidaient pas forcément dans leur maison ou appartement qui se trouve à Jérusalem, qui résidaient par exemple à Ramallah, mais qui possédaient une maison à Jérusalem, il fallait absolument, et c'est toujours le cas, ça dépend des personnes qui sont au gouvernement, il fallait absolument qu'ils puissent prouver que c'est leur maison. Et on demandait des papiers, hein, administratifs très très lourds, très très difficiles.
Qui bien souvent sont en Jordanie.
En Jordanie, évidemment, parce que la Jordanie a aussi été présente pendant près de 20 ans, ou parce qu'ils n'y arrivaient pas tout simplement, ou parce que c'est une maison très très ancienne, ils n'arrivaient pas à avoir les documents, etc. Or, on leur disait, finalement, c'est pas votre centre de vie, Jérusalem, donc vous perdez le droit dessus.
Alors, ce qui s'est passé... Donc ça, c'est la propriété des absents, c'est ce qu'on a appelé la propriété des absents.
C'est ça.
Si on n'est pas dans la maison à Jérusalem, c'est-à-dire qu'on n'y est plus.
Donc ça sera sous l'autorité des gardiens des...
Et on perd la maison, quoi.
Absolument. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et les ONG sont très très actives là-dessus, y compris les ONG israéliennes d'ailleurs, pas que palestiniennes, c'est très bien documenté. Et alors ce que les Palestiniens ont fait, c'est qu'ils se sont dit, à cette violence symbolique, pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu, symbolique juste parce qu'elle est, c'est pas une violence, disons, classique, on va nous imposer une autre sorte de violence symbolique, on va construire illégalement, en effet. Et puis c'est là qu'on arrive aux constructions illégales. Et ils le disent, hein, aujourd'hui, c'est, moi, quand je faisais mon terrain, c'était absolument pas quelque chose de honteux, ni de caché. De toute façon, les colonies sont illégales, de toute façon, l'expropriation est illégale, etc. Donc, on construit illégalement. En sachant que c'est quand même dangereux.
Alors justement, quel est le statut légal des habitants palestiniens par rapport aux habitants israéliens ? Est-ce que ces statuts-là sont différents ? Qui veut commencer ? Irène Salençon.
Ah, mais je crois que mes spécialistes du
alors,
sujet...
Alors,
pas de souci. Jérusalem. À Jérusalem, si vous voulez, il y a les Palestiniens de Jérusalem, puis il y a les Palestiniens du reste des territoires occupés. Les Palestiniens de Jérusalem sont considérés comme des résidents permanents en Israël. Ils ont, par exemple, une sorte de carte de séjour, si vous voulez, à la française. Ils n'ont pas la nationalité
donc
israélienne.
Donc une carte de séjour pour toujours,
absolument,
mais pas la nationalité.
Mais
quoi
pas
qu'ils
la nationalité,
peuvent la demander et
absolument,
l'obtenir dans la moitié
demander,
des cas, à peu près.
Ils peuvent la demander, et il y en a qui demandent la nationalité, mais elle est très, très peu...
Demandée.
On ne la donne pas assez facilement.
J'ai lu
plus.
1/2.
Ça
une demande sur
oui.
deux.
Oui, ça dépend. 1/2, non, je ne pense pas. C'est récent, alors. Parce qu'avant, non, c'était beaucoup moins. Et puis certains, non, ne la veulent pas. Puis d'autres, si, parce que voilà, ils ont vu que ils vivent ici, ils vivent à Jérusalem. Ils apprécient, hein, je ne vais pas mentir, des Palestiniens qui apprécient la vie à Jérusalem par rapport aux Palestiniens en Cisjordanie ou autres, où ils ont une situation beaucoup plus difficile. Donc ils sont considérés, ils sont ce que j'appelle, j'ai beaucoup écrit dessus et j'ai appelé ça des citoyens sans citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des citoyens israéliens, parce qu'ils n'ont pas la nationalité. Ils n'ont pas de passeport palestinien, en effet, de l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne n'a aucune compétence juridique et politique à Jérusalem aujourd'hui. Ils ont gardé leur passeport jordanien, mais ils ne se considèrent pas comme jordaniens, ils n'ont pas la nationalité jordanienne. Ils se considèrent comme palestiniens aujourd'hui, ces résidents palestiniens à Jérusalem, mais ils n'ont aucun papier qui justifie leur appartenance à cette nation, entre guillemets, palestinienne. Et ça, en fait, ça cause énormément de problèmes, notamment pour renouveler leur carte de résident, pour inscrire un nouveau-né, etc. Avec l'arrivée de Netanyahou en 90, ça a complètement explosé et ça n'a pas changé aujourd'hui. Ça tout dépend évidemment des personnes qui sont au gouvernement où l'obtention de cette carte de résident est très très difficile.
Vous voulez ajouter un mot sur ce sujet?
Oui, on peut dire que certains sont vraiment apatrides, ils n'ont pas de nationalité. Et concrètement, ils ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont pas de passeport. Donc c'est, voilà,
même avec un passeport jordanien, ils n'ont pas un passeport jordanien à disposition.
Tous n'en ont pas, ouais. Et donc, en tout cas, même s'ils ont un passeport jordanien, ils sont palestiniens, donc ils n'ont pas la nationalité palestinienne officiellement. Et donc, il y a eu aussi une tendance à retirer, ça a été bien documenté aussi, hein, à retirer ce statut, ces cartes de résident permanent lorsqu'ils passaient un certain nombre d'années à l'étranger.
C'est ça, de ne pas pouvoir revenir.
Voilà. Et je pense aussi qu'on a oublié de dire quelque chose sur la gouvernance, et c'est aussi une des questions sur laquelle Méa a travaillé. Il y a quand même, l'autorité palestinienne ne se désintéresse pas de Jérusalem, au contraire, il y a un ministre de Jérusalem, il y a des députés de Jérusalem, par exemple, Mahmoud Abbas a repoussé plusieurs fois les élections, bon, on sait que c'est bien sûr aussi parce qu'il y avait des rivalités internes sur la scène politique palestinienne, mais l'argument officiel c'était qu'il aurait voulu qu'il y ait des bureaux de vote à Jérusalem-Est pour les Palestiniens. Et il y a des députés au Parlement, au Conseil législatif palestinien, qui représentent des quartiers de Jérusalem. Donc, il y a quand même une vie politique palestinienne, même si c'est quelque chose qui est interdit selon les accords d'Oslo. Et avant, il y avait une municipalité qui était la Maison d'Orient.
La station de Shuafat, tout au nord de Jérusalem. Alors, Jérusalem-Est, c'est une ville moderne, avec des immeubles assez récents, toujours dans cette couleur blonde de la pierre de Jérusalem. Mais ce qui frappe quand on marche dans ces quartiers, c'est d'abord la quasi-disparition de la langue hébraïque. Ici, toutes les devantures sont en arabe, les banderoles sont en arabe. On voit certes de l'hébreu de ci, de là dans certains commerces, mais c'est vraiment une ville arabe. C'est la partie palestinienne de Jérusalem. Et ce qui est notable également, c'est une dotation beaucoup plus modeste en termes de services publics. Par exemple, on voit des grandes bennes où on met les ordures, on voit beaucoup plus de terrains vagues avec des pierres, avec des ordures. Également, on ne voit pas de parc de jeux pour les enfants, on ne voit pas tous ces équipements publics qui sont beaucoup plus nombreux à Jérusalem-Ouest.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Extrait d'un reportage de Frédéric Mettezo décrivant la ville de Jérusalem-Est et la façon dont est organisée, mal organisée, la gestion de la ville de ce côté-là du mur. Quels sont les recours, au fond, à partir du moment où il y a cette ambivalence de ne pas vouloir s'engager réellement politiquement dans la dans le combat politique, pour les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure l'une et l'autre. Est-ce qu'il y a quand même des recours? Parce qu'au quotidien, il faut arriver à vivre avec ces difficultés.
Oui, côté palestinien, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Il n'y a pas d'institution représentative. Et selon les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne, comme je disais tout à l'heure, n'a pas droit de citer. Ils ont la Cour de justice israélienne et ils l'utilisent. Il y a des avocats, beaucoup de cabinets d'avocats palestiniens à Jérusalem qui défendent, notamment j'en ai connu quelqu'un, Oussama Alabi, qui a fait vraiment, qui a fait de sa vie hein, professionnelle, qui a été dédié justement à résoudre ces problèmes d'habitation, de cartes de résident, de logement, etc. Il y a beaucoup d'avocats, mais la justice est israélienne. Hein. Il y a pas de justice palestinienne. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai longtemps travaillé sur la Maison de l'Orient, ça s'appelait. C'était une institution qui a été mise en place de facto avec les accords de paix et qui était une sorte de municipalité dans l'ombre et qui, elle, par contre, dans les années 90, jusqu'à sa fermeture en 2001, puis l'éclatement de la deuxième intifada, représentait les Palestiniens à Jérusalem avec l'accord des Israéliens. C'est ça qui était intéressant à l'époque. Ça n'existe plus, malheureusement. Donc, elle avait des sous-structures pour les logements, pour les cartes de résidents, pour les jeunes, la jeunesse, etc. Et puis, finalement, aujourd'hui, il n'y a aucun recours officiel de ce genre, ou officieux.
Pour revenir à la question de l'aménagement du territoire de la ville, la question du réseau routier, j'ai parlé tout à l'heure de cette autoroute qui est enserrée dans des murs très très hauts et qui relie Jérusalem à une colonie israélienne. Ça, c'est vraiment comment on incarne dans la ville la ségrégation et le conflit, Irène Salençon.
En tout cas, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la ségrégation. Je ne sais pas si on peut exactement dire ça, parce que les Palestiniens peuvent emprunter cette route.
Mais paraît-il qu'il y a peu de sorties qui mènent au quartier palestinien et qu'en en réalité, l'autoroute va vraiment plutôt
vers la colonie. Alors, la ségrégation routière, on la trouve plus en Cisjordanie, pas vraiment dans Jérusalem. Mais c'est vrai que les grands axes routiers qui ont été construits, y compris dans Jérusalem, en fait, cette autoroute, elle a moins de sorties vers les quartiers palestiniens. Oui, ça, c'est vrai.
Vous avez parlé du prix des logements et des loyers. Est-ce qu'on peut parler, comme dans beaucoup d'endroits du monde, d'une gentrification de la ville de Jérusalem, Irène Salençon?
Alors, certains quartiers, hein, pas tous les quartiers. En tout cas, ce qui est aussi quelque chose qui est assez peu connu, c'est que j'ai regardé là, avant de venir, le prix des loyers. Et il est à peu près, le prix moyen des loyers est à peu près le même à Jérusalem-Est et Ouest. Hein, alors que de manière générale, les loyers sont plus élevés en Israël. Hein. À Tel Aviv, par exemple, pour un 3 pièces, j'ai regardé pour un 3 pièces, Tel Aviv, le prix moyen, c'est 2 000 $ en location. Et à Ramallah, qui est quand même la ville probablement la plus chère de Cisjordanie, c'est 700 $. Et à Jérusalem, plus ou moins des deux côtés, c'est 1 500 $. Donc c'est à peu près le même prix.
Comment vous l'expliquez ?
Parce que donc il y a, comme on l'a dit, pour Jérusalem-Est, il y a trop peu de permis de construire par rapport à la demande de logements palestiniennes. C'est ça qui fait monter les loyers. Il y a plus de demandes que d'offres. Et du côté israélien, voilà, c'est quand même moins cher que Tel Aviv. Et ça reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste une ville avec une forte croissance démographique, par exemple parmi la population ultra-orthodoxe, qui du coup part dans les banlieues assez loin en raison du prix du logement. Il y a quand même aussi plus de demandes que d'offres. En ce qui concerne la gentrification, d'ailleurs ça fait aussi un lien avec d'autres choses qu'on a dit précédemment, les quartiers qui se gentrifient le plus à Jérusalem-Ouest sont d'anciens quartiers palestiniens, mais qui sont à Jérusalem-Ouest.
Il y a une raison aussi pour cela ?
Ben, architecturalement, c'est là qu'on trouve les plus belles maisons. Hein. Il y a eu, par exemple, ça a été documenté, hein, il y a eu des films. Donc c'est par exemple Talbiyeh, Baqa,
Alors, il y a le fameux Palace Hotel, par exemple, qui date de l'époque ottomane, qui est voilà un signe d'architecture, qui est voilà d'architecture ottomane et qui plaît beaucoup aujourd'hui.
Oui, voilà, ça c'est un exemple d'ailleurs de voilà de projet qui a coûté assez cher et qui a été réhabilité. Mais je pense aussi pour être plus complet que il y a aussi un quartier qui est très gentrifié à Jérusalem-Ouest et qui est un quartier qui date des années 40. Donc c'est le style international et le style Bauhaus. Mmh. Donc ça c'était des immigrants juifs allemands et donc c'est pas uniquement c'est aussi pour sa centralité. C'est un patrimoine qui a été classé comme patrimoine moderne de valeur par l'UNESCO, comme la ville blanche de Tel Aviv. Donc il y a d'autres raisons quand même, c'est pas uniquement...
Oui. Sur cette question de la crise du logement, de la pression des prix des loyers, est-ce que le tourisme a quelque chose à voir avec ça, Mehmet Alouf Mono, est-ce qu'il y a un tourisme religieux qui ferait augmenter le prix des loyers?
Oui, il y a un tourisme religieux et à Jérusalem, le tourisme n'est que religieux, notamment à cause du fait que cette ville est encore dans un cadre conflictuel. Et le tourisme religieux à Jérusalem n'est pas nouveau, hein, il est ancien. Même à la fin de l'Empire ottoman, le tourisme à Jérusalem était essentiellement un tourisme religieux. C'est comme ça est né le tourisme, hein, à Jérusalem. Alors, est-ce que c'est le tourisme qui fait augmenter aussi le prix des logements? Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet entre les deux, mais ce que je sais que c'est que Jérusalem est une ville chargée sur le plan identitaire, sur le plan passionnel. Elle est très chargée aussi sur le plan politique, et je pense que ça aussi, ça joue indirectement sur le prix.
Oui, mais peut-être que le tourisme a, en revanche, un impact sur l'urbanisme. Parce que comme dans beaucoup de villes, j'imagine que les municipalités cherchent à attirer les touristes et que l'urbanisme est l'une des façons, au fond, d'attirer les touristes.
Oui, notamment, il y a un projet dont on n'a pas parlé qui a fait beaucoup de polémiques. C'est un projet de téléphérique. Bon, ça a été jusqu'à la Cour suprême qui, finalement, a rendu un avis positif en 2022, mais qui doit relier. Donc, il y a une ancienne gare ferroviaire au sud de la vieille ville. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, Jérusalem est très vallonnée et donc devrait passer au-dessus d'un vallon pour rejoindre l'accès qui permet d'aller au mur occidental dans la vieille ville. Et donc ça, c'est contesté de toutes parts par des architectes, par des environnementalistes. Il y a des raisons religieuses aussi parce qu'il y a un cimetière en dessous. Mais bon, finalement, le projet a été accepté, mais il n'est pas encore démarré. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est que le tourisme s'est maintenu malgré les tensions. Dans les dernières années, il y avait quand même pas mal de tensions. Je veux dire, avant la guerre actuelle, il y avait déjà pas mal de tensions à Jérusalem. Le tourisme s'est maintenu et moi qui y vais chaque année, je vois qu'il y a encore beaucoup de touristes chrétiens et évangélistes américains. Mmh. On en a peu parlé là dans cette émission, mais il y a beaucoup de tourisme chrétien aussi.
Est-ce que la question du réchauffement, on sait que la Méditerranée se réchauffe plus rapidement que beaucoup d'autres endroits du monde. La question de l'eau aussi est un problème, une préoccupation à Jérusalem.
Alors, il faut faire une autre émission sur le sujet.
C'est une ouverture à une autre émission.
Oui, grand sujet. Bien sûr, la question de l'eau est un sujet.
Vous ne voulez pas nous en dire un peu plus? Non, c'est à l'autre émission à laquelle on vous invitera.
En tout cas, il y a plusieurs systèmes d'adduction d'eau. Aujourd'hui, il y a aussi un gros sujet sur l'assainissement, le traitement des eaux usées, qui crée des problèmes environnementaux. Il y a un manque de traitement des eaux usées aussi, par ailleurs, en plus du stress hydrique.
Mehmet Alouf Mono, quel avenir vous voyez à la ville dans les années qui viennent? Quels sont les gros enjeux, selon vous? Il y en a beaucoup, j'imagine.
Oui, l'avenir, grande question. Mais je vais essayer. Je pense que Jérusalem restera une ville hors du temps, comme je l'ai dit, parce que c'est une ville qui a connu les conflits depuis presque son existence jusqu'à nos jours, et que aucune nation n'a réussi à la dompter. Donc aujourd'hui, on parle très peu de la solution ou l'internationalisation de la ville, etc. Mais il me semble que je parle parle de la vieille ville. Le reste, je pense que c'est facile à il est facile de trouver une solution, mais surtout la vieille ville. Je pense
donc l'internationalisation de la vieille ville.
On restera et on ira vers une internationalisation de la ville, oui.
Merci beaucoup à l'une et à l'autre pour ce tour d'horizon des enjeux liés à l'urbanisme et à la démographie à Jérusalem. Pour aller plus loin, je renvoie sur vos livres respectifs. Jérusalem, bâtir deux villes en une, c'est votre ouvrage, Irène Salançon, paru aux éditions de l'Aube. Et Jérusalem, idée reçue sur une ville frontière, c'est le vôtre, Mei Malouf Mono, il a paru aux éditions du Cavalier Bleu. C'était Géographie à la carte, Marie-Claire Oumabadi, Jean-Christophe Francis, Anne-Vanessa Prévost. La semaine prochaine, nous vous proposerons une émission sur la mondialisation des maladies. Nous serons en compagnie d'Anne Sénéquier. Mais tout de suite, sur France Culture, vous retrouvez le cours de l'histoire avec Xavier Mauduit.